Bonsoir Robin.
Bonsoir, et comme l'année dernière, j'arrive avec un chiffre, c'est 290 milliards de dollars, c'est ce que coûterait en cumulé les ouragans Irma et Harvey aux États-Unis. Alors, je vous le cache pas, il y a quelque chose d'assez inconfortable à chiffrer ainsi ce qui est en fait des tragédies individuelles, des destructions matérielles et aussi des vies détruites. Les estimations que je donne ici comptent non seulement les dégâts directs, mais aussi les conséquences à suivre, c'est-à-dire tous les emplois détruits par la fermeture des usines et des raffineries de Houston, les destructions des orangeries de Floride et les coûts sur les matières premières que ça va engendrer. Il faut prendre en effet en compte les conséquences à moyen et à long terme. Prenons le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où notre président est en voyage actuellement. On chiffre les dégâts à 1,2 milliard d'euros, mais ça représente seulement ce que les assurances vont payer pour les destructions matérielles, pour les hôtels qui ne sont plus habitables. Mais il faut aussi prendre en compte la perte d'emploi pour les femmes de ménage qui y travaillaient, et puis la perte de revenus pour les vendeurs ambulants sur la plage qui voient disparaître tous les touristes.
C'est vrai que ces chiffres ont tendance à résumer, voire à camoufler des réalités complexes, et pourtant, toi, tu nous les donnes.
Oui, mais c'est qu'un économiste vous dirait que c'est naturel de parler en chiffres, surtout en chiffres monétaires. C'est parce que la monnaie est commensurable. La monnaie est une unité de mesure. Elle permet de mesurer la valeur et donc de comparer en termes précis deux objets différents en termes de ce que ça nous apporte en bien-être. Mais ici, je pense que la commensurabilité est seulement un outil. La vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on cherche à mesurer ces catastrophes. Quel est le but? Quelle est la motivation?
Et c'est probablement pour se rendre compte de ce que devrait être l'effort de reconstruction qu'on les quantifie comme ça.
Il n'y a jamais d'effort pour la reproduction, Rémi. Non, mais je pense que c'est pour la reconstruction. Mais on dit par exemple qu'Irma et Harvey coûtent 290 milliards aux États-Unis. On ne dit pas Irma va coûter tant à telle personne, alors que concrètement, c'est ce qui se passe. Actuellement, ce sont des individus concrets qui souffrent, à Saint-Martin par exemple, et ce sont des véritables individus bien plus que la France comme entité abstraite. J'ai l'impression qu'avec ce genre d'événements, ce genre de risques, comme on les appelle dans les sciences sociales, on vit ça comme un risque partagé, voire même comme un risque public. J'y pense parce que l'économiste Stiglitz, assez célèbre, a publié un billet il y a quelques jours à la suite de l'ouragan Harvey. Il y dénonçait la manière dont l'administration Trump gérait ce genre de catastrophe climatique. Alors, a priori, j'ai quelques réticences à ce qu'on utilise des tragédies comme ça, comme tremplin politique, mais il y avait quelque chose de vrai dans ce billet. Stiglitz notait que les victimes d'Harvey se tournaient intuitivement vers l'État pour leur venir en secours. Alors même que, ironiquement, toutes ces victimes venaient du Texas, là où il y a le plus de défenseurs de Trump, le plus de climato-sceptiques et le plus de défenseurs d'un État faible avec peu de pouvoir d'intervention.
Oui, l'État, on l'aime quand on en a besoin, c'est ça?
Oui, il y a l'idée naturelle, en fait, aussi, je pense, que les victimes n'ont pas à payer toutes seules les conséquences de la catastrophe. Elles ne peuvent pas et elles ne devraient pas. En termes économiques, on dit que le risque doit être mutualisé. Alors, c'est un truc de gauche, c'est un truc pour les défenseurs d'une intervention publique. Pas seulement, les libéraux vous diront qu'on n'a pas besoin d'État pour ça. C'est le principe même de l'assurance, y compris privée. Quand on s'assure, on paie pour... on paie quand on ne nous arrive rien pour être remboursé quand il nous arrive quelque chose. C'est un risque mutualisé.
Et quitte à mutualiser le risque, on peut aussi le répartir différemment sur les personnes.
Oui, a priori, le marché de l'assurance permet aussi de redistribuer le risque pour qu'il pèse sur des personnes qui peuvent, voire qui veulent le soutenir. Par exemple, ces dernières années, s'est développé ce qu'on appelle le marché de la réassurance. Notamment de la réassurance aux catastrophes naturelles. En fait, il s'agit d'actions, de titres émis par des compagnies d'assurance, des titres qui peuvent être achetés par n'importe qui, c'est-à-dire par des traders, et leur possession est rémunérée en pourcentage chaque mois de la valeur achetée. Le seul problème pour le trader, c'est qu'en cas de catastrophe naturelle, il perd ce qu'on appelle son principal, c'est-à-dire la valeur qu'il a achetée à la base.
Donc tu es en train de nous dire qu'Irma et Harvey sont en train de ruiner les traders.
En quelque sorte, oui. Mais ça, ce serait dans une représentation idéalisée des marchés. Désolé, Rémi. En réalité, les assurances ne sont pas très bien déployées dans les zones sinistrées par Irma et Harvey. Ce sont des risques aussi qui sont mal couverts, notamment aux États-Unis, dont les assurances couvrent rarement les inondations. Et donc, quand l'assurance dysfonctionne, comme on le voit aujourd'hui, c'est l'assistance qui doit prendre le relais. L'assistance, on la définit comme un effort d'aide aux sinistrés sans préméditation et sans contrepartie, contrairement à l'assurance. C'est-à-dire, ce n'est pas un risque mutualisé, mais une aide altruiste. Donc, intuitivement, l'assistance est publique, mais elle vient aussi des ONG comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières qui sont présents depuis le début suite à ces ouragans. Et donc ça nous fait bien penser que ces chiffrages amènent à voir le risque comme mutualisé et aussi comme une responsabilité morale collective pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.
Merci beaucoup Robin pour ton billet éco, je n'aurais jamais dû parler de retard tout à l'heure, voilà que nous en avons pris.
Désolé.
C'est pas grave, nous passons donc tout de suite au volet culturel de cette émission et la première des cultures c'est bien sûr la science. Bonsoir Baptiste.